un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une pratique qui se répand à bas bruit, en toute illégalité, depuis longtemps. Ainsi, dès 2011, la mère de Montauban avait refusé de prononcer un mariage qu'elle soupçonnait officiellement d'être blanc, estimant la promise trop fragile, sans souligner explicitement que le futur époux était sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière tunisienne. Car en France, il est tout à fait légal de se marier avec un sans-papiers, une disposition prévue par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, dont la France est signataire. Elle précise, il est impossible d'interdire à une personne de se marier sous prétexte de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa situation aux yeux de l'administration du pays dans lequel elle vit. Il faut dire que la députée maire de Montauban, Brigitte Barège, s'était illustrée à l'époque dans un autre domaine, quelques mois auparavant, alors que le débat sur le mariage des personnes de même sexe faisait rage à l'Assemblée nationale, en s'exclamant « et pourquoi pas des unions avec les animaux ou la polygamie ?» La maire s'était par la suite excusée. Robert Ménard et Gilles Platret s'excuseront-ils à leur tour de s'être opposés au mariage des deux couples que nous entendons tout de suite dans Les Pieds sur Terre ? Ça n'est pas gagné par Karine Lelouette.
Je m'appelle Eva, j'ai 29 ans et j'habite à Béziers. Notre rencontre avec Moustapha, elle a eu lieu début 2022 sur la terrasse de la Micaline à Béziers. J'étais en fait avec une amie pour prendre le goûter après l'école avec les enfants et il s'avérait qu'elle connaissait Moustapha qui est venu lui dire bonjour. Et ça a commencé comme ça en fait. Dès le premier regard, on est tombé l'un sur l'autre et il a demandé du coup à mon amie de faire le lien et elle lui a donné mes réseaux sociaux et c'est là que l'histoire a commencé. À l'époque, il avait tout juste 22 ans. Il est diplômé d'un diplôme de matelot qu'il a passé au lycée de la mer à 7. Puisqu'il est fou de la mer, en fait, depuis l'Algérie, ça le suit. Son papa a une entreprise de bateaux directement à Oran, là-bas. Et donc, lui, il voulait absolument un diplôme qui soit bien reconnu. Et puis voilà, après, il a fait sa vie ici. Il a intégré son groupe d'amis, d'énormes connaissances. Et puis moi. Quand j'ai connu Moustapha, ma situation personnelle, c'était que je sortais d'une séparation difficile. Moi, j'ai 3 enfants. Précédente union. Et quand je l'ai connu, si vous voulez, ça a été de suite un lien indéfectible. Il m'a beaucoup aidée à reprendre confiance en moi, à me réalimenter normalement, à dormir la nuit, à ne plus faire de crise d'angoisse. Il a été vraiment d'un soutien énorme pour moi à ce moment-là. Après notre rencontre, on ne s'est plus jamais lâché vraiment au quotidien. On était ensemble du matin au soir. On faisait tout ensemble, comme un couple qui était ensemble depuis une dizaine d'années, alors que ça faisait que quelques mois. Et ça a continué à évoluer comme ça, jusqu'au mois de décembre 2022. En fait, on a commencé à avoir le projet éventuellement d'habiter ensemble. Mais vu qu'on est musulmans tous les deux, on voulait faire les choses dans les règles. Donc on voulait se marier, tout simplement. C'est un rêve de petite fille que j'ai, moi. Et là, vraiment, j'avais trouvé la bonne personne. Donc on a commencé à parler mariage, à parler aménagement, on avait plein de projets. Et au mois de février 2023, ça s'est fait. Il est venu aménager avec nous. Les mois que nous avons passés ont été vraiment magiques et c'est passé malheureusement très 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 vite. Sa situation administrative, il ne me l'a pas dit de suite. Un jour, autour d'une conversation, il m'en a parlé, il m'a dit « Écoute, voilà, il faut que tu saches, je devais avoir mes papiers en 2019, j'en ai pas été informée, attends, ça a été caduque, j'ai pas su faire de recours. » Et derrière, là, cette OQTF qui est mise en place après un contrôle. Un OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. On était déjà ensemble. Et en fait, il n'a jamais réussi à partir, il n'a jamais réussi à se détacher de nous, il est resté. On se dit quand même, on va se marier, c'est beau tout ça, donc lui il a l'aval de ses parents, moi des miens. Au mois de mars, on décide d'aller à la mairie, on récupère le dossier, on le remplit, on prend le premier rendez-vous, qui est le 28 mars. À l'état civil, on dépose le dossier avec les pièces et on nous dit par contre, voilà, ça arrive parfois quand une des deux personnes n'a pas la nationalité française. Vous allez devoir subir une audition qui sera, elle, envoyée au procureur et c'est le procureur qui jugera si vous pouvez vous marier ou non. Leur crainte, d'après eux, c'était que ça puisse être soit un mariage blanc, soit un mariage gris. Un mariage gris, c'est quand une des deux personnes embobine l'autre en lui faisant croire qu'elle l'aime pour avoir seulement les papiers. Alors qu'un mariage blanc, c'est quand les deux personnes commettent un accord et font clairement un faux mariage, quoi, tout simplement. Donc nous, on le comprend, hein, on accepte et puis on se rend donc le 15 mai 2023 pour passer cette audition. Ça consiste à nous poser 48 questions, 11 pages. On est donc séparés, chacun dans une pièce l'un après l'autre pour qu'on ne puisse pas se souffler les réponses. On lui a posé la question du prénom, de l'âge de mes enfants, moi de si je connaissais ses parents, si je connaissais ses sœurs, de donner leur nom, leur date de naissance, pourquoi on veut se marier, pourquoi lui et pas un autre, moi pourquoi. Enfin, c'était vraiment énormément de questions pour voir si on se connaît en fait tout simplement. Donc on passe ces questions au la main, il n'y a aucun souci, ni de son côté, ni du mien. Le 28 juin, il me semble, la responsable du service état civil à la mairie me rappelle et me dit « Écoutez, voilà, l'audition qui a eu lieu le 15 mai a été validée par le procureur, il ne voit aucun inconvénient à votre mariage, les bans sont publiés, donc vous pouvez choisir une date de mariage sans problème. » On choisit le 7 juillet puisque en fait c'est un vendredi. Le vendredi est un jour très important pour nous en islam, comme le dimanche chez les chrétiens. On se dit c'est la bonne date. Et donc là on tombe dans les préparatifs du mariage, la robe, la tenue, le voile, tout ça, les tenues des enfants, le traiteur, trouver l'endroit, inviter les personnes, les préparatifs d'un mariage normal quoi, tout simplement. Et en fait le 6 juillet au soir, Mustapha m'appelle catastrophé, il me dit « Eva, je sais qu'il te manque une ou deux choses pour demain, mais là il faut que tu rentres vite, on a un gros problème. » Quand je rentre chez moi, on voit l'interview de M. Ménard sur CNews, où il dit qu'il a un mariage le lendemain à 11h, donc le 7 juillet à 11h, et qu'il refuse de marier ces deux personnes, puisque le marié a une OQTF.
Enfin attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière. On veut, si on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. Et moi, je vais aller le marier. Mais si on veut le mettre dehors, mais écoutez, que la police des airs et des frontières, je leur donne rendez-vous vendredi à la mairie, ils le trouveront, puisqu'il vient à 11h se marier. Et bien sûr que je ne vais pas le marier.
Quitte parce... à vous mettre, vous, hors
mais
la
bien
loi.
Sûr, tant pis.
Donc là, je suis catastrophée, il est 20h, je suis dans un état pas possible, je dors pas de la nuit. Le matin à 8h, je décide d'aller le voir en sa qualité de mère pour discuter avec lui. Il me reçoit très brièvement, donc je lui dis gentiment que c'est absolument pas contre lui, que moi, enfin, ses opinions politiques à la rigueur, je les comprends pas, mais je les respecte. Mais que maintenant, moi, c'est mon droit en tant que personne de me marier et qui devrait plutôt laisser faire la justice. Il n'a plus rien voulu entendre. Il m'a répété, je ne vous marierai pas. Et j'ai quand même décidé de revenir à 11h parce que je me suis dit peut-être que c'est seulement du bluff. Peut-être qu'il va se poser des questions et que ses élus vont lui dire, bah, écoutez, vous, vous voulez pas la marier, mais nous, on peut éventuellement prendre le relais et le faire. Et en fait, quand on s'est présenté à 11h, ça a été le coup magistral, quoi. On arrive à 11h à la mairie et là, on voit ben, tous les médias nationaux, régionaux présents. Donc au départ, on n'ose pas trop sortir de la voiture. On ne veut pas être filmé, on veut juste se marier. Nous, on n'a pas appelé la télé. Moi, je suis en robe de mariée, Mustapha est en costume de mariée. Les enfants sont habillés comme si c'était le mariage de leur maman, tout simplement. Il y a les médias qui sont présents, il y a un comité d'accueil qui se forme en fait en voyant, je pense, les caméras et en ayant entendu les déclarations de M. Ménard la veille sur CNews. Oui, donc il y a des personnes, je suppose, hein, qui soutiennent les idées d'extrême droite qui se présentent, qui se mettent un petit peu en groupe devant la mairie. Déjà, quand on rentre, on commence à nous huer. On n'y prête pas attention. Donc là, on pénètre en fait dans le hall d'entrée de la mairie. Et M. Ménard enclenche l'alarme incendie et ferme les portes de la mairie. Donc les gens, en entendant l'alarme, se regroupent de plus en plus devant la mairie. Il y en a qui rentrent dans le hall même, qui se mettent à nous filmer, à notre insu, avec leur portable, à nous siffler. Il y a divers noms d'oiseaux, retourne dans ton pays, enfin, beaucoup d'insultes qui fusent. Nous, on décide de rester concentrés, dos à eux, face à la mairie, et on attend. Et en fait, au bout d'une dizaine de minutes, une bonne dizaine de minutes, M. Ménard sort accompagné de quelques-uns de ses élus et de sa femme. Et il me répète devant caméra.
Je vous ai déjà dit que je ne vous marierai pas.
Oui.
Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Je ne m'occupe pas des affaires personnelles des gens et tout. Il se fait...
Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Il se fait...
L'article 12 de la Convention.
Il se fait, monsieur, que depuis près d'un an, vous faites l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Oui.
Vous n'avez pas été reconduit à la frontière.
Mon histoire, moi.
Je sais juste que vous avez eu des problèmes de la police.
D'accord.
Pour une histoire.
Vous c'est vous. Des erreurs. J'étais jeune quand j'ai fait ces erreurs-là.
J'étais jeune, monsieur. C'est vous qui me l'avez dit.
Voilà.
Depuis, vous faites l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Vous êtes en situation illégale. Point final. Merci.
Procureur, ou est-ce que le procureur est votre supérieur hiérarchique? Ma fille, la dernière, qui est à ce moment-là avec moi, hurle. Puisqu'elle sent le stress, elle sent les cris, elle voit sa maman pleurer. Mustapha, il n'est pas bien du tout, il se sent comme l'ennemi public numéro un, la personne à abattre. Et nos invités, ils ne savent plus quoi faire. Et au bout de trois quarts d'heure, une heure, on décide d'aller porter plainte, en fait, contre M. Ménard. Et on termine au commissariat en robe de mariée et costume de mariée, à déposer plainte. Le chef d'accusation, c'est personne dépositaire de l'autorité faisant refus de marier, en fait. Je crois que c'est pas le terme exact, mais c'est à peu près le terme exact. Et la police aux frontières donne à Mustapha une convocation, juste pour lui, pour le 17 juillet, à la demande du préfet, pour vérifier sa situation administrative sur le territoire français. Le 17 juillet, on y va. Moi, je suis encore sereine. Mustapha, beaucoup moins. Et donc, le 17 juillet, on le laisse juste rentrer lui. Et vers 14h30, il est placé en centre de rétention en attendant de voir ce qu'ils prennent comme décision. Et ce sera au bon vouloir du préfet. Là, je fonds en larmes. Lui, à ce moment-là, on n'arrête pas de lui répéter que ça va aller et qu'il va sortir. Donc, si vous voulez, comme il me répète la phrase, moi, tant que tu es là, ça va, ça ira. Le lendemain, je décide de lui amener quand même des affaires, des bouteilles d'eau, de quoi grignoter et tout ça, bienveillante. Donc là, nous sommes le mardi 18 juillet. Donc le mercredi, je monte le dossier comme il faut pour qu'il puisse être vu les prochains jours devant la juge des libertés, en fait, puisqu'il n'est pas expulsable. Du moment qu'il est au centre de rétention depuis plus de 48 heures, il n'est absolument pas expulsable. Il faut absolument qu'il passe devant une juge des libertés qui, elle, décide ce qu'elle fait. Et je décide d'aller le voir le lendemain matin. Sauf que le matin, quand je me lève, donc il est 7h30, 8h, il m'envoie un message où il me dit « Écoute Eva, je suis à l'aéroport de Marseille, je suis prêt à embarquer à l'avion. Ils sont venus me chercher à 2h du matin, je prends l'avion dans une demi-heure, je pars pour Oran. » Et là, en fait, là vraiment, je commence à prendre conscience qu'il ne va plus être là. Quand il me rappelle vraiment, il est en Algérie, en fait, il me dit « Voilà, ça y est, je suis à Alger. Je vais essayer de joindre mon père pour qu'il vienne me chercher. » Ben moi, je cours partout. Je cours partout pour comprendre ce qui se passe. Donc, il est 9h. J'appelle le centre de rétention, qui s'excuse pour ce qui vient de se passer. Et on m'explique qu'ils n'étaient absolument pas, eux non plus, au courant. Que eux-mêmes étaient stupéfaits et qu'ils ne savaient absolument pas comment ça s'était passé et ce qui s'était passé. À ce moment-là, je me pose énormément de questions. Je ne sais pas ce qui est normal, ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. Je ne sais plus rien. Je sais juste que là, je suis séparée de l'amour de ma vie, en fait. Et qu'on n'est même plus sur le même sol et que je ne sais pas quand je vais pouvoir le retrouver. La première nuit, je dors pratiquement pas. Je mange très peu. Ça fait 2 mois et 8 jours aujourd'hui qu'il a été expulsé. J'ai l'impression que le monde s'est arrêté de tourner alors que non, le temps passe, les gens vivent. Et moi, ben, je suis là et j'attends. Tout me ramène à Mustapha, tout me ramène à l'histoire qui nous a été volée. J'ai l'impression de me raccrocher à ce qui reste, les affaires dans l'armoire, son parfum, sa brosse à dents. Et... ouais, la maison pour moi, elle est... non seulement elle est vide, mais ce vide est lourd. Alors avec Mustapha, on se réveille le matin, on est en visio. On se couche le soir, on est en visio. On échange énormément. Et il exerce enfin sa profession de matelot. Donc il est beaucoup sur le bateau, il pêche, il est en mer. Là où il a le droit de faire ce qu'il aime, donc d'un côté c'est bien, mais il est beaucoup dans l'espoir et il attend que je puisse aller le voir. Là j'ai eu mon passeport il y a environ 10 jours. Et là j'ai rendez-vous demain au consulat d'Algérie à Montpellier pour faire ma demande de visa. Donc j'espère pouvoir aller le voir là pendant les vacances scolaires d'octobre. Ça donnera 3 mois sans s'être vu. SOS Racisme a déposé plainte. Il y a 3 députés et un maire qui ont fait une saisine au gouvernement pour le mariage. Et derrière, pour l'expulsion qui est tout à fait illégale, j'ai déposé avec mon avocate Maître Edberg un recours devant le juge pour détournement de procédure et abus de pouvoir. Je sais que ça va être relativement très long. Donc je ne sais pas si ça va nous permettre de pouvoir le faire rentrer ou pas. Pour l'instant, vraiment, c'est vraiment aller le voir et tenir le coup jusqu'à ce que la roue tourne pour nous. Je me pose des questions. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que je vais avoir droit à être heureuse? Est-ce que je vais enfin avoir le droit à vivre mon amour, tout simplement, comme tout le monde?
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Aurélie, j'ai 22 ans et j'habite à Chalon-sur-Saône.
Je m'appelle Hassan, j'ai 44 ans, origine turque, j'habite à Chalon-sur-Saône. Moi je suis né à Istanbul en Turquie, je suis arrivé ici en 2002. En fait depuis 2002 je suis à Chalon, je travaille, j'essaie de faire ma vie comme tout le monde quoi.
On s'est rencontrés du coup en boîte de nuit, monsieur était videur et moi j'étais cliente. J'allais souvent l'embêter, j'allais vers lui. Et puis, petit à petit, on s'est vu en rendez-vous. On allait faire des dates. Puis, petit à petit, on a commencé à construire une histoire ensemble. Même si au début, c'était compliqué par rapport à l'âge, du coup, le décalage d'âge. Pendant 1 an, j'ai caché à mes parents par rapport à son âge et par rapport, on va dire, à son origine. Après 1 an, j'ai décidé de présenter du coup mon mari à ma famille.
Au bout d'un moment, on a décidé de vivre ensemble. Moi, je l'ai invité chez moi, puis elle est venue. Donc, j'ai présenté mon fils. Il avait autrement 3-4 ans, quoi. J'étais pas sûr quand même sur cette relation. Elle aussi, elle était pas sûre au début. Comment ça va le faire? Donc, les familles, comment ils vont réagir, etc. On a essayé, ça a marché, quoi. Et ça marche depuis presque 4 ans. Donc, depuis ça, on est ensemble. On s'aime.
Donc, je me suis dit, si on fait une famille recomposée, il faut que ce soit bien recomposé quand même, que ce soit sain quand même, on va dire, au sein du foyer, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de demander mon mari en mariage. Donc, au tout début, il n'était pas forcément confiant, parce que, voilà, moi, je suis jeune. Il avait peut-être peur qu'un jour ou l'autre, je m'en aille, que je dise, je suis jeune, en fait, j'ai envie de profiter. Avant ça, comme chaque année, je pense, fallait qu'il renouvelle sa carte de séjour. Donc il va chercher sa carte de séjour, la préfecture le refuse. Il comprend pas. Et après, il reçoit du coup une OQTF.
J'avais tout ce qu'il faut pour voir la carte de séjour. J'avais pas de casier judiciaire, j'ai travaillé. Et donc j'avais une vie normale, comme tous les étrangers, quoi. Comme tous les autres, quoi.
Et ensuite, on a la mairie qui nous appelle. Et qui nous dit que le mariage est annulé parce que on n'est pas sûr de votre histoire d'amour, quoi. Ils nous disent on va faire une audition. Il nous auditionne, il nous pose des questions assez, on va dire, quel est le plat préféré de votre conjoint ou de votre conjointe, quelle est sa couleur préférée, quoi. Quelles sont ses habitudes? Nous, on était sûrs de notre amour, ça faisait déjà un an qu'on était ensemble, on vivait là, c'était comme ça, quoi, naturellement, quoi.
Après cette audition-là, ils ont dit qu'on va envoyer votre dossier quand même devant le procureur. Dans cette période-là, le service police aussi, qu'ils sont venus chez nous, c'était dès le matin, 9h du matin, excusez-moi, mais moi j'étais en caleçon, ma femme était en short, etc. Mon gamin, il est en train de jouer au parterre sur tapis. Ben, ils ont frappé la porte, j'ouvre la porte et tout. Ils sont venus à l'intérieur, une dame et puis un monsieur. En fait, question, c'était comme ça. Écoutez, est-ce que vous êtes ensemble? Je dis, qu'est-ce que vous voyez par contre là? Oh non, mais monsieur, dites oui ou non. Je fais, écoutez, mais vous voyez, pourquoi vous posez des questions? On est ensemble. Des questions comme ça, quoi. On a réussi quand même. Du coup, monsieur le procureur, il a pris sa décision, il a envoyé une lettre à nous pour dire que, aucun problème, c'est feu vert, quoi, en gros. Du coup, avec cette décision-là, on a rappelé encore à la mairie de Chalon-sur-Saône-10 que oui, c'est bon, on a reçu, vous pouvez venir pour voir une deuxième date, quoi.
Donc on arrive là-bas, donc on est accueilli, on prend une date du coup pour le 8 janvier 2022. On commence à préparer, on fait les invitations, le traiteur, voilà, tout ce qu'il faut, quoi.
On m'appelait à la veille de mariage. On devrait marier samedi dans la matinée, 11h20 normalement. On m'appelait 16h50 vendredi soir. Donc moins 10 de fermeture de la mairie, quoi. Une personne qui m'appelait, c'était un monsieur, me dit que c'est pas la peine de venir demain, en gros, parce qu'on va pas célébrer votre mariage, quoi. Je fais, vous êtes sérieux, par contre? Il me dit, monsieur, je vous le dis. Je travaille dans la mairie Chalon-sur-Saône, donc voilà, mon rôle, à vous dire que demain, on va pas célébrer votre mariage. Sans raison. Bien sûr que j'ai pété les plombs, moi j'ai dit écoutez non, donc on va venir quand même parce que j'ai des invités qui viennent de 500 km, on a fait notre préparation quoi, traiteur quand même, machin et tout. Si vous voulez venir, il y aura le flic qui vous attend devant la porte, mettez-vous à ma place, vous sentiez comment?
Je commence à appeler ma mère, en pleurant, je commence à appeler ma grand-mère, à mon père, ma meilleure amie, elle essayait de me calmer puisque moi je suis quelqu'un de très, très angoissé hein, de base, et ensuite... Je sais plus si c'était mon frère ou ma belle-sœur qui regardait sur Facebook. Et là, on voit un communiqué du maire. Gilles Patré, il s'appelle. Donc, il a dit « Assez de ces étrangers en situation régulière qui veulent profiter de la République. Je refuse de célébrer demain un mariage manifestement blanc. » Donc, il explique « Ce n'est pas au maire de se rendre complice du laxisme d'une République qui proclame à tout va qu'elle veut lutter contre le mariage blanc, mais qui fait le contraire sur le terrain. » Mais le procureur a fait son travail, il a fait l'audition, il ne voyait aucune opposition à ce qu'on se marie. Il y a la police qui est venue chez nous, donc pour voir si on était bien ensemble ou pas, on est ensemble. Donc dans les jours qui ont suivi, c'est vrai que moi je sortais pas de chez moi. Je regardais les commentaires qu'il y avait sur le communiqué du maire, parce que c'est vrai qu'il y avait des commentaires assez racistes aussi, et assez violents. Comme le commentaire, il y en a un qui avait dit « Ouais, la jeune de française, il faut la tondre ». C'est quand même assez grave. J'étais pas bien, quoi. Je pleurais tout le temps, j'avais pas envie de sortir, je mangeais plus. Mon mari était très en colère aussi. Même le petit, en fait, ça lui a fait énormément de mal de me voir comme ça, quoi. Ça m'a abattue, on va dire. Que je me relève et que je me remette debout, ça a été compliqué. Du coup, on voit nos avocats. En premier temps, on décide, avec mon avocat, de porter plainte contre le maire, contre incitation à la haine. Parce que tous les commentaires qu'on a eu, des propos racistes, ouais, le Turc, faut qu'il rentre chez lui, pourquoi il se marie pas en Turquie. Et par contre, il y a eu la dernière décision, en fait, de mon avocat et de l'avocat de mon mari qui a été faite aussi avec le procureur, le maire, du coup, monsieur Gilles Platré. Il avait jusqu'au 31 mars à prendre sa décision d'accepter de nous marier. Après 31 mars, il risquait en fait d'avoir 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour abus de pouvoir par rapport à ces décisions-là, quoi. La situation de mon mari aussi, entre-temps, elle s'était arrangée avec son autre avocate qui a fait le nécessaire pour qu'il récupère sa carte de séjour. Et puis pour prouver aussi que, en fait, monsieur, il n'avait pas besoin de se marier avec moi pour avoir ses papiers. Hein. Donc, une fois qu'il a récupéré sa carte de séjour, on a pris rendez-vous avec l'adjoint du maire. Il nous a accueillis dans son bureau.
J'ai laissé parler ma femme avant moi. À ce moment-là, j'ai repris de parole. J'ai mis ma carte de séjour devant lui, sur sa table. Je fais, écoutez, voilà ma carte. Je veux me marier avec cette jeune femme-là. Qu'est-ce que vous allez me dire maintenant? J'ai une carte de séjour, tout à fait normale, quoi. Je suis en norme. Je veux me marier avec cette femme-là. Là. Elle est jeune ou pas? Donc c'est quoi qui vous gêne par contre? Il a dit, ouais, bah écoutez, non, c'est pas moi, c'est monsieur le maire qui l'a fait, c'est pas de ma faute, etc. Donc, à ce point-là, monsieur le maire, il est reculé. Et donc, du coup, on a marié 10 juin 2023. À la mairie de Chalon-sur-Saône quand même. Malgré tout ce qu'ils ont fait, toutes ces difficultés, on a réussi de marier quand même.
Donc voilà, on a quand même dû repayer les décos, refaire les cartes d'invitation, réorganiser, rappeler toute la famille, les amis, ceux qui viennent de loin. Le jour de notre mariage, on a énormément stressé, on avait peur que ça recommence. Au final, on a eu la chance que ça recommence pas. Puis on est arrivé à la mairie. Donc moi j'étais un peu étonnée quand même parce qu'en fait il y avait des policiers là-bas quand même. Donc on est passé à la mairie. Donc bien évidemment c'était pas le maire qui nous a mariés. Hein. C'est son adjointe, une dame qui était pas très non plus très gracieuse, hein, qui souriait pas tout le long. Elle était fermée quoi.
Mais on a réussi quand même de profiter un petit peu. Il y avait nos invités quand même autour de nous, la famille, et on a dansé quand même avec ma femme, etc. Voilà quoi, c'était bien joli quand même.
C'était émouvant, on était beau quoi, on était une belle famille quoi. On a eu beaucoup de photos, voilà, des bons souvenirs, hein. De toute façon ça restera des bons souvenirs. Hein. Voilà, maintenant je suis avec mon mari, on a des projets, donc on continue notre vie quoi.
En fait, malgré tout ça, on n'attendait qu'une petite chose, une excuse, parce qu'il devrait voir la honte, normalement, monsieur le maire, hein, mais il n'a même pas excusé. On n'attendait qu'une excuse, par contre.
Le maire ne s'est jamais montré en face de nous, n'a pas eu le courage, hein, je dis bien, hein, n'a jamais eu le courage de venir en face de nous et de parler de ce problème-là avec nous. Au lieu, en fait, d'étaler notre vie devant tout le monde, devant tout Chalon, que ça reste discret, quoi. Il s'est dit, on va prendre ce cas-là et on va faire de la politique avec. Pour moi, c'est politique aussi.
C'était Déni de mariage, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Charlotte Roux. Merci à Léa, à Aurélie, à Hassan, ainsi qu'à Maître Julien Marceau et à Maître Vanessa Edberg. Je précise que Gilles Plâtrer, le maire de Chalon-sur-Saône, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet que nous avons abordé, tandis que Robert Ménard, maire de Béziers, n'a pas non plus répondu à nos sollicitations malgré plusieurs relances. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Zoé Coupé, et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
Malattia o di terrore, di sete o di fame o di depressione, di ipocondria o di delusione, di odio sociale, di rassegnazione o di religione. In giovane età ormai in pensione, per troppa prudenza ho poca attenzione. Di libertà o di reclusione. Di missili in guerra, di mali d'amore. Ho un colpo di sole. Cieli chiusi in casa e fuori strade spoglie. Nessuno sa che cosa accadrà. Soffia vento freddo sopra i nostri giorni e dietro le porte armati di sogni aspettando che torni. La nostra vita